Bonsoir auditrices, auditeurs de Studio Kalangou. Il est 18h15 à Niamey et partout au Niger. C'est l'heure de votre émission hebdomadaire, le Forum de la Presse. Un rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de Niamey pour le décryptage des faits ayant marqué la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi 27 septembre 2024, nous avons trois sujets au menu. La rentrée scolaire 2024-2025 prévue initialement le 1er octobre 2024 est reportée au 28 octobre de la même année selon un communiqué du Conseil des ministres du 19 septembre. Les inondations enregistrées dans plusieurs régions du pays sont à la base de ces reports. Nous en parlerons dans un instant. Le Premier ministre Ali Mahama Lamine a rencontré les centrales syndicales du Niger le lundi passé. Plusieurs questions ont été évoquées, entre autres le recrutement dans les secteurs de l'éducation et de la santé, mais également les décrets d'application du nouveau SMIC et le paiement des incidences financières liées au reclassement et rappel des salaires. L'actualité, c'est aussi ce projet dit de la souveraineté numérique et de la sécurité au Sahel. Les ministres de communication de l'AES et les responsables de la société russe Glav Cosmos se sont rencontrés à Bamako, la capitale malienne. Les échanges dits stratégiques ont porté sur la conception et le déploiement de deux satellites, un pour télécommunication et un autre dédié à la télédétection terrestre à distance. Nous en parlerons également. Pour décrypter ce sujet, chers auditrices, auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Armi Abakari. Bonsoir Armi.
Bonsoir Tanan.
Vous êtes journaliste à la radio Alternative. Maimouna Jado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna.
Bonsoir.
Nous avons également Doyen Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Bonsoir
Monsieur Ousseini.
Moi Tanan Fouda Ahmed, je vais assurer la modération de ce forum. La technique sera assurée par Amina Hassan. Le gouvernement nigérien, au cours du dernier conseil des ministres tenu le 19 septembre dernier, a annoncé le report de la rentrée scolaire 2024-2025 au 28 octobre 2024. Selon les informations rapportées par la télévision nationale, la décision du report de la rentrée scolaire fait suite à l'indisponibilité des salles de classe qui sont occupées par les sinistrés des inondations enregistrées. Armi, qu'est-ce que vous pensez de ce report de la rentrée scolaire 2024-2025?
Merci. Je me rappelle, à la veille de ce report, dans un débat entre amis, je disais que je ne pense pas possible la rentrée au 1er octobre. Et comme si j'ai été entendu, justement, il y a eu cette décision du gouvernement qui reporte la rentrée au 28 octobre, soit pratiquement un mois de report. Et je pense que les gens ont évoqué un certain nombre de choses. Hein. Ils disent que non, les Nigériens, les élèves nigériens, les scolaires nigériens seront en retard par rapport à leurs camarades de l'UEMOA, parce que l'UEMOA aurait initié des examens concertés, organisés simultanément. Ça permet de savoir non seulement la performance du système éducatif dans chacun des pays, mais aussi ça permet de refuser à ce que des élèves se permettent de participer à plusieurs examens de même catégorie, de même niveau dans la même année. Mais moi, je leur ai rétorqué que la réalité sur le terrain, c'est cela qui dicte le comportement et au gouvernement et à tous les citoyens. Quand les classes sont occupées, les Nigériens qui sont dans ces classes-là, c'est et des parents et des élèves. On ne peut pas les déguerpir tant qu'on ne trouve pas où les reloger. Les pluies, semble-t-il que d'ailleurs ce n'est pas encore arrêté. Et on ne sait pas quelle autre classe pourrait être occupée au vu de l'ampleur des inondations de cette année. Et donc, c'était clair que ça devait être reporté. Maintenant, ce qu'il faut envisager, c'est que normalement, ce n'est pas un mois de sommet pour le gouvernement. La rentrée, qu'il y ait inondation ou pas, c'est quelque chose qui s'organise vraiment.
Oui, mais Monsieur Armi, les années précédentes, il y a eu des situations comme celle-ci. Est-ce que vraiment
non,
c'est une raison?
Non, ce n'est pas comparable. On n'a pas eu des journées de 200 mm, 250 mm dans ce pays-là. En tout cas, nous-mêmes qui sommes vos anciens, on ne connaît pas ça. Et parfois, même certains de nos parents n'ont jamais vu ça. La dernière fois qu'à Maradi, il y a eu une telle inondation, ça remonterait à 1946. Et c'est cela qui a d'ailleurs conduit le système colonial à l'époque à déplacer carrément la ville de Maradi pour sur son site actuel, semble-t-il. Et donc, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de choses ont changé et il y a eu beaucoup d'écoles qui sont effondrées, des écoles qui sont occupées, des écoles qui sont inondées, même dans la ville de Niamey encore. Et donc, c'est une situation exceptionnelle, il ne faut pas se le cacher. Je crois que le report s'imposait de lui-même. Je crois qu'il n'y avait pas moyen d'organiser ça.
Maimouna, par rapport à ces reports, est-ce qu'il y a des raisons autres, celles citées par le gouvernement qui pourraient être à la base de ces reports?
Oui, bon, ce que le gouvernement dit, c'est juste. Et ce que nous autres aussi nous voyons, il n'y a pas jusque-là. En tout cas, nous n'avons pas vu l'arrivée des fournitures scolaires. Il n'y a pas l'affectation des enseignants. Il n'y a pas également l'orientation, la liste d'orientation des élèves qui sont admis quand même au CEG et qui attendent jusque-là leur orientation. Donc, il y a beaucoup de choses autour seulement, donc pas seulement les sinistrés, pas seulement les écoles effondrées, pas seulement les écoles qui sont inondées, mais il y a beaucoup de choses parce que une classe, c'est une classe. Même si tu as une classe, s'il n'y a pas le nécessaire pour que l'enfant puisse être au rendez-vous le jour de la rentrée, donc ça veut dire que le gouvernement doit mettre le paquet aussi là-dessus. Il y a les tables bancs, il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont pas assez de tables bancs pour accueillir ces élèves-là. Il y a également cette question, comme on dit, il faut régler la question également du COGES. Il y a beaucoup de choses que le ministère de l'Éducation, à mon avis, doit régler. La question, c'est vrai, on parle de sinistrés, on parle des écoles occupées, on parle des écoles qui sont inondées. On ne dit que ce que nous voulons entendre. Ce que nous voulons entendre, c'est quoi? C'est les inondations.
Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne voulait pas qu'on entende qui n'ont pas été...
Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, justement. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir aujourd'hui au grand jour pour dire qu'il y a cette situation, je l'ai dit, d'affectation. Il y a également la situation des contractuels qui attendent d'être... qui attendent, en fait, le recrutement au niveau de la fonction publique. Parce que ça fait partie également de leur plateforme revendicative. Et non seulement s'il n'y a pas satisfaction au niveau donc, de ces enseignants, ça veut dire que même si la rentrée est programmée le 28 octobre prochain, mais de ce côté, quand il n'y a pas les engagements, ne sont pas tenus également, ces contractuels-là ne peuvent qu'aller et boycotter de cette rentrée.
Donc, voilà, mais Mona, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que tout ça là, c'est des choses qu'on peut régler dans un mois?
On dit que, en fait, on ne prépare pas une rentrée scolaire la veille. La rentrée scolaire, ça se prépare dès au moment où on sait que les élèves sont rentrés déjà en vacances. C'est-à-dire que l'État a 3 mois ou un an en avance pour pouvoir préparer la rentrée scolaire prochaine. Tout ce que nous sommes en train de citer, ça devrait être déjà un acquis pour l'État. Maintenant, peut-être, ce qu'il faut ajouter, parce que la nature aussi, ça peut nous surprendre, les inondations. C'est ça seulement que moi je me dis que ça devrait empêcher quelque chose, mais tout ce que nous sommes en train de dire, ça devrait, c'est quelque chose qui doit être réfléchi un an avant, ou bien 3 mois avant la reprise des cours.
Merci Hosseini Issa, ne serait-ce pas des problèmes d'autres secteurs qu'on a transposés à l'éducation qui sont à la base de ces reports? Qu'est-ce que vous pensez à votre niveau?
Non, il y a des secteurs prioritaires. L'éducation, c'est un secteur prioritaire. La santé, c'est un secteur prioritaire. L'agriculture, tout ça, n'est-ce pas? Et on doit quand même prévoir, n'est-ce pas? On ne peut pas improviser. Il n'y a pas de transposition d'autres problèmes. On sait bien que la rentrée va avoir lieu après les 3 mois de vacances. Il y a un secteur qui est là, il y a un ministère, un département ministériel qui s'occupe de ça. N'est-ce pas? Il y a un budget qui est consacré à ce secteur-là. Il y a, Et un imprévu, les inondations, n'est-ce pas? Tout à l'heure, il me disait, le report, ce n'est pas en soi un problème, n'est-ce pas? On a connu des rentrées qui ont eu lieu en novembre, souvent en décembre même. Je ne vois pas en quoi ça peut perturber. Maintenant,
mais il y a la situation humanitaire qui est là.
Oui, mais la situation humanitaire, il y a un ministère de gestion de, comment on appelle, un ministère. Qui est là, des catastrophes humanitaires et tout et tout. Maintenant, je dis une chose, quand on est confronté à ce genre de situation, il ne faut pas faire les fiers à bras. Et j'ai comme l'impression qu'on est dans cette logique-là, où on dit les partenaires humanitaires, on ne veut pas faire appel à eux pour venir quand même apporter leur soutien. Quand je parle de partenaires humanitaires, je dis, nous sommes membres de l'ONU. Les organismes humanitaires, normalement, ils doivent pouvoir intervenir pour pouvoir supporter, accompagner l'État dans la prise en charge des sinistrés. Je n'ai pas l'impression que, en tout cas, comment on appelle ça, ils sont présents, ils sont en tout cas physiquement présents, ils sont sur le terrain.
Selon vous, qu'est-ce qui explique leur absence?
Mais parce que tout simplement, il y a des gens qui s'agitent là pour dire on n'a pas à faire appel à eux. On va s'auto-suffire. Mais même les pays les plus industrialisés, quand il y a des situations de catastrophe, il faut appeler ces organismes-là interviennent. Maintenant, des gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, le mécanisme et tout, ils considèrent que non, non, non. C'est une affaire nationale, c'est une affaire patriotique. On est dans une situation. Imaginez les années entre eux, c'est souvent eux qui apportent les tentes. L'assistance nécessaire aux personnes sinistrées. Et qu'on dise aujourd'hui que bon, on n'a pas besoin d'eux, on va s'auto-gérer. Moi, je dis quelque part, il y a un problème qui se pose, n'est-ce pas? Il y a un véritable problème qui se pose.
Selon vous, l'État doit faire appel à ces structures
non,
des Nations Unies?
Non, mais bien évidemment, mais quand des gens, c'est pas l'État même, c'est des gens qui s'agitent derrière, soit présumés société civile. Non, on n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour pouvoir... En tout cas, parce que les montants qui sont prévus pour prendre en charge la question, c'est autour de 12 milliards. 12 milliards ne peut pas gérer cette situation-là. Il ne faut pas se bercer d'illusions. 12 milliards ne peut pas suffire pour prendre en charge. On a décalé la rentrée jusqu'au 28. Mais il faut trouver des endroits où reloger toutes ces personnes sinistrées qui vivent dans les classes pour que la rentrée soit effective. Il ne faut pas perdre de vue, tout à l'heure, Rémi a dit ça. Il y a carrément même des directions régionales qui sont inondées. N'est-ce pas?
Oui, oui.
Il y a des directions régionales à Maradi, je crois que la direction régionale est carrément inondée.
Oui, une autre situation qui inquiète beaucoup, c'est celle des Filengue. Dans un son qu'on a passé récemment sur les ondes du studio Kalangu, l'administrateur délégué disait que seul le local de la préfecture n'est pas inondé, tout est sous l'eau et la situation continue.
Mais c'est
vous
pas
pensez
venu.
Que d'ici 28 juillet,
non, mais non,
28
c'est
octobre,
pas
septembre,
parce que il est prévu que les pluies continuent jusqu'en fin septembre là. Et Dieu seul sait si ça va pas prolonger
jusqu'en octobre. Hein.
Si ça va pas se prolonger jusqu'en octobre. Alors dans ce contexte là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément solliciter quand même. C'est une situation de catastrophe naturelle de grande ampleur. Hein. Des quantités de pluie arrivées viennent de dire ça qu'on n'a jamais connu. En tout cas, nous autres, là, nous n'avons pas connu ça. Alors, face à cette situation, il faut nécessairement faire appel à l'assistance humanitaire internationale. Voilà un peu comment ça s'appelle, mais il y a des gens qui s'appellent au nom du... On n'a pas besoin, on ne peut pas s'auto-suffire.
Vous pensez à d'autres?
La question de la rentrée scolaire, en fait, ce n'est pas limité uniquement au niveau du ministère de l'Éducation nationale. En fait, c'est tout le gouvernement que ça regarde. Il y a des départements ministériels qui doivent être à côté du ministère de l'Éducation pour la réussite de la rentrée. Quand je parle d'autres ministères, il y a le ministère du Transport, il y a le ministère des Finances, il y a le ministère de la Fonction publique, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas une question du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est l'affaire du gouvernement, parce que tous ces ministères ont quelque chose à apporter dans la réussite de la rentrée scolaire et effective de la rentrée scolaire. Quand je parle de l'emploi, du ministère de l'Emploi, c'est parce qu'il y a cette affaire des enseignants, le recrutement des enseignants. Quand je parle, par exemple, du ministère des Transports, il faut acheminer les fournitures scolaires. Donc ça, c'est le ministère du Transport également qui doit mettre sa main pour la réussite de ça. Quand on parle, par exemple, du ministère de la Santé, il y a des affectations qui, aujourd'hui, sont confrontées à cette situation, qui peuvent tomber malades, qui peuvent faire des choses. Et il y a également le ministère de l'Intérieur.
Okay, le ministère de l'Intérieur. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire?
Mais la sécurité. Sécuriser et le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Aujourd'hui, il y a des zones où les enseignants, même s'ils veulent aller, ils ne peuvent pas aller. Il y a des zones où même les élèves, on peut créer les conditions pour que les élèves puissent aller étudier. Les élèves ne peuvent pas aller étudier. Donc, il y a cette affaire aussi d'insécurité qui regarde les deux ministères. Tout ça là, c'est pour dire que la réussite aujourd'hui de cette rentrée scolaire ne repose pas uniquement sur le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, on l'a dit, c'est le ministère de l'Éducation. OK. Après, c'est le ministère de l'Éducation. Quand tout ça sera réuni, c'est le ministère de l'Éducation qui va conduire.
Ok, voilà, c'est l'affaire de presque tous les gouvernements. Mais c'est Arumi, un mois de programmes scolaires perdus, vous pensez qu'on peut les rattraper?
Ah si, si, si. L'année dernière, comme c'est l'une des premières années normales que nous avons connues dans ce pays depuis vraiment des lustres, les enfants ont fini l'année au mois de mai. Fin mai, les enfants avaient tous fini, sauf les classes d'examen. Ce qui fait que juin, juillet, août, septembre, ils ont pratiquement 4 mois de vacances. Autrement dit, si tout se déroule très bien à partir du 28 octobre, encore en fin mai ou fin juin, tout au plus, d'ailleurs avant c'était comme ça, mais il y avait dans les zones rurales les enfants qui quittaient l'école pour aller cultiver et tout. Donc c'est pourquoi on veut finir l'année au mois de mai. Sinon, au mois de juin, on peut vraiment valablement finaliser l'année et être au rendez-vous vraiment de l'UEMOA s'il le faut, quoi. Donc moi, je pense que ce n'est vraiment pas un problème si c'est pris à bras le corps. Parce que le problème de l'école, il est mauste, mais de façon ponctuelle, chaque année doit être gérée aussi au cas par cas. Cette année, l'exception, c'est d'abord cette histoire d'inondation. L'année dernière, à pareil moment, le gouvernement, qui venait pourtant d'arriver aux affaires, avait quand même pris les dispositions pour commander. Et d'ailleurs, on disait qu'il y avait un gain énorme en matière d'argent pour avoir commandé correctement les fournitures scolaires et tout. Bon, malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on suit de très près. On ne sait pas chaque enfant a eu combien de cahiers crayons, combien de bics. Mais je pense que une rentrée effective au mois de juin, le 28 octobre, il n'y a aucun risque pour l'année, quoi.
Monsieur Hussein Issa, le 24 septembre 2024, la ministre de l'Éducation nationale a publié un document sur le respect de la date de la rentrée scolaire 2024-2025. Elle dit que c'est une date qui concerne et les établissements publics et les établissements privés. C'est-à-dire qu'il y a déjà des établissements privés qui ont commencé les cours ou bien elle veut que ça soit vraiment uniforme.
Ça veut dire qu'il y a des établissements privés qui ont commencé les cours. Et moi, je pense que la note qu'elle a sortie est tout à fait normale. Il faut mettre les scolaires au même pied d'égalité, n'est-ce pas? On ne peut pas laisser, parce que tout simplement, moi je suis dans le système privé, on ne peut pas laisser les écoles privées faire une rentrée pendant, non, ça doit être une date uniformisée. Il fallait arrêter ça, et moi je suis tout à fait d'accord, je partage entièrement, comment dire, cette décision-là.
C'est sur ces propos que nous allons marquer une pause avant d'entamer la deuxième partie de ce forum. Le premier ministre Ali Mahama Lamine a rencontré les centrales syndicales du Niger. Les responsables de ces centrales rapportent une rencontre intéressante durant laquelle les échanges ont porté sur la situation antérieure par rapport aux négociations avec les préalables, dont entre autres les recrutements dans les sous-secteurs de l'éducation, de la santé, les décrets d'application du nouveau SMIC, les paiements des incidences financières liées au reclassement et rappel des salaires. Monsieur Arumine, vous avez certainement suivi toutes les actualités relatives à cette rencontre. Selon vous, qu'est-ce qui a suscité cette rencontre?
Je crois que sans vraiment lire dans les pensées des gens, je dirais que c'est pour marquer l'intérêt certainement du gouvernement par rapport à cette question-là. Parce que depuis vraiment la fin de l'année scolaire jusqu'à ces jours, c'est vraiment sur les lèvres de tous les travailleurs. Ce n'est pas les enseignants seulement, mais leur syndicat, leur centrale syndicale ne cesse d'en parler. Au point où nous-mêmes qui ne maîtrisons pas cette question-là, aujourd'hui on sait que c'est quelque chose d'hyper important. Et donc moi je pense que le Premier ministre, il a eu vraiment du tact. Parce qu'il faut parler avec les gens. Je crois qu'ils ont parlé. Je ne sais pas s'il a eu à prendre des engagements fermes, mais ça y va de la stabilité du front social dans notre pays. Ça, c'est des choses sur lesquelles même la corruption, ça ne marche pas. Tu peux corrompre la tête, mais les travailleurs ne vont pas laisser dormir leur dirigeant. Et ils vont les débarquer à tout moment pour que leurs problèmes soient posés chez qui de droit. Je pense que c'est la démarche, elle est à saluer, mais il faut aller jusqu'au bout du processus. Il faut peut-être leur faire des échéanciers, dire que voilà, de tel à tel, ce sont, voilà, sur combien de temps on peut payer les gens, voilà, pour ce qui est de. Il faut prendre à bras le corps les problèmes et les gérer. Chacun est soucié, je crois, de l'avenir de ce pays.
Voilà, mais Mona, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre entre le Premier ministre et les centrales syndicales? Est-ce que ce n'est pas pour éviter les perturbations de l'année scolaire?
Cette rencontre a été d'abord initiée par la ministre de la fonction publique, par le biais donc du Premier ministre, parce qu'il y avait une situation de dialogue social qui ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, c'est resté au statu quo. Il n'y a plus de dialogue social entre le ministère de tutelle et les centrales syndicales. Donc il y a des centrales syndicales aujourd'hui, le ministère ne peut pas les approcher pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir trouver une solution.
Mais qu'est-ce qui est à la base des...
Oui, ce qui est à la base en fait, c'est cette situation de classement des centrales syndicales. La non-organisation des élections professionnelles. Parce que il faut faire un rappel que c'était les élections professionnelles devraient se tenir quand il y a eu ce coup d'État, le coup d'État. Donc, forcément, il fallait aller vers ces élections professionnelles pour ne pas rentrer, en tout cas, pour ne pas être en violation de la loi qui leur donnait l'occasion d'organiser ces élections professionnelles. Donc, il y avait le mandat qui devrait finir, en principe, l'avant-veille ou la veille du coup d'État. Deuxièmement, il y a eu le classement des centrales syndicales. Un classement de ces centrales syndicales où c'est le ministère de la fonction publique qui a eu à faire ce classement de ces centrales syndicales. Où il y a des centrales syndicales qui ont refusé d'accepter et qui refusent jusque-là d'accepter le positionnement qu'on leur a donné dans ce classement. Et ces centrales syndicales ont également saisi le Bureau international du travail pour dire au Bureau international du travail, voilà maintenant ce qu'il y a, ce qui est en train de se faire au niveau du Niger et qu'eux ne sont pas d'accord. Voilà. Deuxièmement, troisièmement, il y a l'engagement, des engagements qui ont été déjà pris par le gouvernement et qui n'ont pas été respectés. Et là, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à dire que pour la veille, pour la réussite de cette rentrée scolaire, il faut également nécessairement trouver un mécanisme d'associer les centrales syndicales, puisque ce sont au sein de ces centrales syndicales que se trouve la majorité, je dis bien la majorité des contractuels et des enseignants titulaires de l'éducation. Il y a également la subvention de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a été partagée pour toutes les 13 centrales syndicales existantes au Niger. Mais quand des centrales syndicales et avec le ministère n'arrivent pas à s'entendre, il faut nécessairement qu'il y ait l'implication du Premier ministre.
Donc, vous voulez dire que le Premier ministre, c'est comme s'il a joué une sorte de médiation
entre le ministère de la fonction publique et les centrales syndicales pour voir qu'est-ce qui est à la base de cette situation de dialogue social qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous voyez ? Donc, il fallait réactiver, il fallait trouver une solution. Et la solution doit venir nécessairement du chef du gouvernement. Donc, moi, je vois que c'est de bonne guerre. Donc, il faut nécessairement dialoguer et le dialogue social est très important, en tout cas pour un pays comme le Niger.
Monsieur Ousseni Issa, à la sortie de cette rencontre, les responsables de ces centrales semblent satisfaits alors que rien n'a été négocié pour l'instant. Est-ce qu'il y a un bon signe pour la bonne compréhension entre les autorités et ces centrales syndicales?
Le seul fait, parce que j'imagine que c'est certainement, comment s'appelle, la primature qui a initié cette rencontre-là pour pouvoir poser le problème, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est déjà, comment dirais-je, une étape, un pas important, n'est-ce pas? Maintenant, certainement, ils ont discuté de beaucoup de choses. Toutes ces questions-là, Memouna vient de dire, toutes ces questions-là, c'est des questions en suspens qui sont là, souvent depuis des années, depuis l'ancien régime. Peut-être, à la sortie, quand ils disent qu'ils sont satisfaits, c'est que le Premier ministre a rassuré qu'ils vont prendre les dispositions, ils vont mettre en place des mécanismes pour pouvoir régler, n'est-ce pas? C'est des problèmes qui ont traîné, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est des problèmes depuis l'ancien système. C'était des problèmes qui étaient traînés où il y avait des revendications, des plateformes revendicatives où on trouve des protocoles d'accord qui n'ont jamais été résolus. Peut-être certainement, le Premier ministre a rassuré que cette fois-ci, ils vont créer les conditions pour que tous les problèmes, les doléances, puisse être résolvé, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je suis d'accord qu'ils disent qu'ils sont satisfaits. Parce que de l'autre côté, avant, c'était le dilatoire qui a été traîné. Ça date de pratiquement depuis 12 ans.
Voilà, mais c'est Armi, ce sont des problèmes qui datent depuis plusieurs années, selon Issa, des dizaines d'années. Vu quelques points des revendications de ces centrales, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir actuel peut satisfaire ces centrales?
Ah, mais écoutez, il y a des pouvoirs qui ont fait face à des... Quand il y a eu la transition de Wenge, mais les gens ont subi 9 mois d'arriérés de salaire subitement. Et pourtant, ces arriérés-là ont été épongés. Et je crois que c'est plus important que les incidences financières. Avant ça, sous Barré, il y a eu énormément d'arriérés et les travailleurs de l'époque, nous qui étions les travailleurs aussi, on sait ce qu'on a vécu. Mais il y a eu des gouvernements qui se sont succédés, qui ont trouvé des mécanismes pour les payer. Aujourd'hui, beaucoup, grâce à ces arriérés-là, ont des maisons, parce que souvent, c'est des parcelles qui ont été données. J'espère qu'à partir de cet instant, vraiment, les choses ont changé et l'État trouvera toujours la solution et doit trouver les solutions. Il n'y a pas de possible ou pas. Non, non, l'État peut et doit. Voilà,
c'est une question de volonté.
Non, voilà, c'est ça quoi.
Voilà, Memouna, c'est une question de volonté. L'État doit les faire. Vous, qu'est-ce que vous pensez? À quel point vous pensez que l'État doit d'abord satisfaire avant de revenir sur d'autres?
Quand on met sur la table du gouvernement une plateforme revendicative, ça veut dire qu'on examine d'abord les points essentiels. Qu'est-ce qui peut être exécuté très rapidement et qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui est aujourd'hui prioritaire dans les revendications de ces centrales syndicales? Je pense que les centrales syndicales ne revendiquent pas plus que ce qu'ils savent qu'aujourd'hui l'État du Niger peut satisfaire. Ils ne revendiquent pas ce que l'État du Niger ne peut pas faire, ne peut pas satisfaire. Non. Quand ces centrales syndicales revendiquent, c'est-à-dire que ces centrales syndicales sont également au parfum de ce que l'État est capable de résoudre ou de ne pas résoudre. C'est une chaîne et elles sont informées du début jusqu'à la fin de tout ce qui se trame. Donc, c'est pour vous dire que les doléances qu'on pose, c'est des doléances qui regardent parfois toutes les centrales syndicales. Quand on parle du SMIC, ça concerne toutes les centrales syndicales. Ça concerne les travailleurs nigériens. Il n'y a pas un travailleur nigérien qui ne serait pas concerné par le SMIC, par le rehaussement du SMIC. Mais ça fait combien d'années que l'État du Niger avait décidé d'augmenter, de réviser le SMIC? Et jusque-là, le SMIC n'a pas été...
n'a pas vu, en tout cas, de
rehaussement. Et la situation même des contractuels, toutes ces centrales syndicales se retrouvent dedans parce que c'est une lutte qu'elles ont menée, pas aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que l'État du Niger avait promis d'abord de recruter les contractuels, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la santé. Mais s'il n'y a pas tout ça là, mais comment est-ce que ces centrales syndicales-là puissent au moins se dialoguer avec le ministère de la fonction publique, de l'émergence du pays? C'est ça, en fait.
C'est sur ces propos que nous allons marquer une pause avant d'entamer la dernière et la troisième partie de ce forum. L'actualité, c'est aussi le ministre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, chargé des communications, qui ont annoncé le lancement prochain d'un satellite de communication et de télédétection, fruit d'une collaboration avec l'Agence spatiale russe. C'est la suite d'une rencontre de 2 jours tenue à Bamako. Les ministres de l'AES et les responsables de la société russe Glave Cosmos ont discuté sur ce projet portant sur la conception et le déploiement de 2 satellites. Un pour les télécommunications et un autre dédié à la détection terrestre à distance. Monsieur Hussein Issa, 2 satellites pour l'Alliance des États du Sahel, comment voyez-vous ce projet?
C'est la bienvenue. On va sortir d'un système pour avoir notre propre système, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces 3 pays-là, n'est-ce pas? On est jusqu'ici, quand les gens parlent de patriotisme et tout, on n'est pas encore arrivé à souveraineté, on n'a pas encore cette souveraineté. Avec ces 2 satellites-là, on va être souverain même sur le plan de la communication, tout ça. Ce n'est que la bienvenue. Comment je vois ça? Je sais que les Russes, en cette matière-là, ils sont souvent plus loin que les Occidentaux. Ils ne parlent pas beaucoup.
Maïmouna, ce projet, est-ce que vraiment c'est la priorité en ce moment?
Moi je pense que ce projet peut être une des priorités aussi de nos États, l'AES.
C'est une priorité, ce n'est pas, ça va être une priorité.
Ça peut être une des priorités. Parce que, en fait, nous sommes dans une situation de communication, de la guerre, de la communication, où tout se raconte, tout se dit, où on fait déstabiliser des États à partir de la communication. Donc, si on arrive à installer des satellites qui, aujourd'hui, qui seront capables, en tout cas,
de détecter
aussitôt donc ces ennemis de nos États, je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans la même lutte insécuritaire. Nous sommes dans la même lutte que nous sommes en train, les mêmes engagements contre cette situation sécuritaire. Donc, rien ne doit être laissé, en tout cas au hasard.
Pour ce projet, un terme a été utilisé, la souveraineté numérique et la sécurité au Sahel. Monsieur Arumi Abba, qu'est-ce que vous pensez de ces projets?
Je pense que c'est sérieux et c'est un point de démarcation avec le genre de collaboration, de coopération auquel nous étions habitués. Comme on le dit, vraiment que de donner du poisson à quelqu'un, c'est encore mieux de lui apprendre à pêcher. Mais il faut que ça soit un outil de l'AES. Donc je pense qu'il faut prendre ces projets-là au sérieux, n'est-ce pas, et vouloir les faire aboutir, vouloir les faire aboutir, mais c'est des projets certainement à long terme, ça demande beaucoup de ressources, mais de savoir-faire. C'est pourquoi donc la formation des jeunes, c'est nos jeunes dont on se plaint qu'ils n'ont pas du travail, dans tous ces domaines, on doit se spécialiser et développer, c'est-à-dire vraiment, il y a un coup de fouet qu'il va falloir donner pour que tout ça là soit une réalité. Et ça passe, je crois, par la formation et par l'implication des jeunes. C'est incontournable à mon niveau.
Voilà, justement, par rapport à la formation, c'est un volet qui a été évoqué lors de cette rencontre par le ministre nigérien de la communication, Sidi Mohamed Raliou. Il a indiqué, je cite, il ne s'agit pas seulement de bénéficier des technologies russes, mais de former les experts locaux qui assureront une gestion autonome de ces infrastructures.
Oui, monsieur Hussein Ibrahim, qu'est-ce que vous pensez évidemment, de ça? Bien évidemment, moi je me dis, le problème de nos pays, en fait, les pays, surtout les pays, comment dire, francophones, c'est que c'est quoi qui s'est passé pendant pratiquement plus de 60 ans, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu cette dynamique-là de former pour que les gens prennent en charge eux-mêmes, n'est-ce pas? Voilà, il faut qu'on réfléchissent et qu'on crée les conditions pour que ceux qui vont être formés à tous les niveaux et dans tous les secteurs, il faut qu'ils soient des gens de terrain. Parce que c'est le terrain qui développe, c'est pas le bureau. Et moi, je suis d'accord avec cette vision. Il faut que les gens s'approprient et imposer aux partenaires qui viennent de créer les conditions pour que ceux-là, vous êtes venus avec la technologie, il faut qu'ils apprennent à faire fonctionner cette technologie. C'est ça souvent qui a manqué, et c'est ça qui a manqué dans nos pays africains. Quand vous allez dans les pays asiatiques, vous allez constater que, d'abord, même du point de vue de la formation, on te forme déjà. Déjà, on te cible, on te forme, et tu es déjà capable de faire des choses de toi-même. Et on t'encourage à continuer, n'est-ce pas? Pour une anecdote que j'ai vécue personnellement, en 2004, en Inde, à Bombay, c'est des enfants de classe de 5e, 6e. Ils sont déjà programmeurs. Ils te rentrent dans l'ordinateur pour t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que tout simplement, on n'a pas considéré que c'est l'enseignement général. C'est, il faut créer les conditions pour que ça soit un enseignement où en même temps, il y a l'apprentissage pratique, il y a la pratique. Voilà ce qui peut faire.
Mais Mona, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question de formation des experts locaux?
C'est une bonne chose qu'on forme aujourd'hui des experts, qu'on dise que le Niger regorge aujourd'hui des experts. C'est bien bon. Parce que regardez, par exemple, quand on prend les Chinois, c'est l'exemple que je suis en train de prendre. Quand ils viennent avec ceux qui peuvent faire le travail pour eux. Mais quand ils quittent, quand il y a une seule petite panne, il faut d'abord faire appel.
Encore
à ces gens-là pour venir réparer la panne. Donc, imaginez, alors que si on avait pris des garde-fous pour insérer des Nigériens qui vont apprendre avec ces Chinois,
en leur imposant
ces Chinois ou bien ceux-là qui viennent créer les entreprises, que voilà sur la condition et les bases sur lesquelles vous allez, en tout cas, on va vous donner l'occasion de faire votre entreprise. Parce que, si on regarde aujourd'hui, il y a des moments où, au niveau du palais de congrès, il y a eu des travaux à faire, où on nous parle qu'il faut que celui qui va arranger doit être d'abord, on doit payer son billet d'avion pour l'amener, pour arranger, et c'est des coûts encore énormes, élevés. Et qu'on dise qu'il n'y a aucun Nigérien qui peut faire le travail. Mais c'est grave. Donc, dans ce cas, si aujourd'hui, on doit laisser ces expatriés venir dans nos pays, ou bien venir ici au Niger, nous faire des entreprises, et ensuite, quand ils quittent, ça veut dire que des infrastructures et tout, quand ils quittent, ça veut dire que les infrastructures, là, nous ne connaissons même pas le temps de vie de ces infrastructures. On ne sait pas quand ça tombe en panne. Comment est-ce qu'il faut les réparer? Moi, je pense qu'il faut revoir la copie. Hein.
Voilà, il faut revoir la copie, mais c'est à remis à bas la formation des experts locaux, la conception de ces satellites. Est-ce que ce n'est pas pour une longue durée? Alors ça, que ces choses doivent arriver pour assister à la guerre qui est asymétrique.
Non, c'est clair qu'à une certaine époque, on aurait mis ça parmi les priorités. Aujourd'hui, l'aide militaire est fondamentale, en tout cas la collaboration militaire, mais ça compte, c'est aussi des moyens militaires en réalité. Et c'est ça qui permet de contrôler tous les mouvements, y compris terrestres. Vous avez vu l'un des satellites, à quoi ça sert, c'est le contrôle terrestre. Et donc, c'est-à-dire que c'est à distance, comme quand une fois les Français avaient filmé des gens en train d'installer des engins, des explosifs improvisés sur des routes qu'ils ont montrées. Et on s'était dit, oui, ils en sont capables, mais ils ne nous les montrent pas. Et donc, c'est des choses comme ça. C'est aussi des moyens militaires en réalité, les satellites. Il ne faut même pas s'en douter. Mais aussi en matière de contrôle terrestre, pas que militaire. C'est-à-dire aujourd'hui, il va y avoir inondation, l'eau qui vient régulièrement, qui est en train de submerger, comment on appelle, d'immerger, flinguer, ça permet de voir comment ça se fait et sur quel territoire on peut dévier cette eau-là pour que chacun soit en paix par rapport à tous ces aspects. Donc c'est vraiment des moyens très modernes, mais aussi globaux en réalité. C'est vraiment des moyens de développement, y compris dans l'agriculture, dans l'élevage. C'est très, très, très vraiment utile. Et les gens sont en avance sur nous par rapport à ça. Rien que le coût de la communication, si nous avons nos propres satellites, c'est... Hier, je voulais envoyer, depuis 3 jours, je vais envoyer 20 gigas par Internet. Il ne faut pas savoir combien j'ai dépensé et combien je souffre. Je ne dors pas. Donc vraiment, c'est des choses, je vous assure tout. Donc c'est y compris sur ces aspects, la téléphonie. Aujourd'hui, même avec les forfaits hebdomadaires, nous avons encore des problèmes. Pas souvent, tu appelles à DIFA, ce n'est pas disponible. C'est des choses que tu maîtrises désormais toi-même, que c'est le Niger qui fait. Vraiment, ou le Burkina, ou le
Mali.
Le Mali. Et donc, vraiment, c'est déjà que ça soit pour 3 pays uniquement, c'est des pays comme le. J'ai vu que le Kenya, ils sont aussi sur ces questions-là. De même, le Sénégal serait en train d'essayer quelque chose comme ça. En fait, c'est incontournable. Les gens, les secrets de développement, on les connaît, mais les gens. Donc, il faut former nos jeunes. Malheureusement, c'est ça la question. Il faut former les jeunes, oui, techniquement, mais aussi du point de vue moral, c'est-à-dire le retour pour la population nigérienne, le retour pour les citoyens nigériens, pour le Niger, de tout ce que tu apprends, pas pour aller travailler pour quelqu'un. Ça, vraiment, on doit insister. C'est les Nigériens qu'il faut fabriquer. Pour le Niger, en fait, quoi. Et c'est nécessaire, la formation, c'est incontournable, à mon avis.
Voilà, nous sommes à la fin de ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous remercions à nos invités, Armi Abakari, journaliste à la radio alternative, Ousseine Issajibo, journaliste indépendant, Maimouna Jado, elle est également journaliste indépendante. Moi, Tarnan Foud Ahmed, j'ai assuré la modération, la technique Amina Hassan l'a assuré ce soir. Un très beau week-end à tous.